Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Hébreux chapitre 4. Nous serons dans Hébreux 4, versets 1 à 13 ce soir, toujours en continuant cette étude, partage suivi à partir du livre de l'Épître aux Hébreux. Et j'aimerais juste, avant qu'on regarde ce texte dans Hébreux 4, 1 à 13, juste faire une petite mise en situation, parce que ce passage que nous voyons ce soir, c'est en fait la conclusion à un développement, à une argumentation de la part de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui est en train d'exhorter, d'encourager les chrétiens à la fidélité et à l'obéissance. Et donc, si vous regardez, jetez juste un coup d'œil au chapitre 3, vous verrez qu'il y a cette pensée qui commence avec l'évocation, l'appel à deux exemples positifs de fidélité. Et ces exemples sont premièrement Moïse, qui est le serviteur fidèle, et puis Jésus, qui est le fils fidèle. Et l'auteur aux Hébreux nous dit que Moïse et Jésus ont été fidèles en tout, dans ce qui leur a été donné. Et ça, c'est les versets 1 à 6. Et dans la suite, au verset 7 à 19, on va passer des exemples positifs aux exemples négatifs. Parce qu'on voit que si Moïse et Jésus sont fidèles en tout, bon, qu'en est-il de ceux qui suivent ces exemples? Et on commence avec ceux qui ont suivi Moïse, et ça c'est ce que Brady a partagé la semaine passée, mais que ceux qui ont suivi Moïse n'étaient pas fidèles dans toutes les choses, mais plutôt ils avaient fait preuve d'infidélité, de rébellion, de dureté de cœur, et par conséquent, le résultat pour eux c'était la mort dans le désert sans recevoir les promesses de Dieu. Et la question vient donc, si c'est ainsi que s'est produit l'histoire de ceux qui suivaient Moïse, qu'en est-il de ceux qui vont suivre Jésus? Et l'idée là, ce n'est pas de condamner les chrétiens, mais de les exhorter, de les encourager à rester fidèles pour ne pas suivre le même chemin que les Israélites dans l'Ancien Testament. Si ceux qui suivent Jésus font preuve de fidélité, eux pourront hériter des promesses qui ont été données. Ils ne doivent donc pas être comme les Israélites dans le désert pendant les 40 ans. Donc ça, c'est le développement du chapitre 3. Et donc, nous arrivons maintenant à la conclusion, qui est un peu le but final ici, c'est d'encourager, de donner un boost une fois de plus pour ces chrétiens. Avec cette question toujours, quel sera le sort de ceux qui suivent le Fils fidèle? Donc, nous lisons Hébreux 4, les versets 1 à 13. « Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. » Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et de nouveau, dans ce passage, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas, à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe, en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bon, j'aimerais qu'on regarde ici trois choses importantes à retirer. Et premièrement, c'est le message central de ce texte. Et si vous avez écouté, vous l'avez entendu en tout cas 10 fois, n'est-ce pas? C'est le repos de Dieu. Le repos de Dieu. C'est le thème principal de ce message et le but de l'auteur aux Hébreux, c'est de convaincre ces chrétiens de tenir bon pour pouvoir participer au repos de Dieu qui est promis. Voilà la promesse. Si on a parlé d'un peu du bâton, n'est-ce pas? Il y a aussi la carotte qui pend devant ces chrétiens. Et c'est ce repos que Dieu promet. Vous savez, le repos faisait partie intégrante de la vie et de la pensée, de la théologie des Israélites dans l'Ancien Testament. Le temps, on appelait ça le temps sacré, qui était le sabbat, le septième jour, était réservé au repos. On parlait de l'entrée dans la terre promise comme une période de repos. Il y avait les années sabbatiques, les années où on laissait la terre en friche pour que la terre, pour que les animaux et les esclaves puissent se reposer. Il y avait même les années de jubilé. Et comme l'auteur le mentionne dans le texte, Dieu lui-même, après avoir créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, prit du temps pour se reposer. Et donc, quand on pensait à la vie avec Dieu, une des idées fondamentales qui était là, c'était cette notion d'avoir du repos. Et ce repos, ce n'est pas l'idée de l'indolence, d'accord, d'être assis à ne rien faire, mais plutôt l'idée de, pour les créatures, de la reconnaissance et d'un temps pour la réflexion au sujet de Dieu. Pour regarder, pour faire une pause, regarder autour de soi et voir tout ce que Dieu a fait et d'être reconnaissant pour tout ce qu'il est. Et bien entendu, dans Genèse chapitre 2, hein, n'est-ce pas, quelque part dans les Écritures, c'est dit que Dieu se reposa. Nous avons avec les chapitres et les versets, là dans Genèse chapitre 2, au verset 2, il me semble, que Dieu se reposa, mais nous savons que Dieu n'a pas cessé d'agir avec ce repos à la fin de la création, mais qu'il continue à soutenir, à donner vie à tout ce qui se trouve dans la création. Mais il y a quand même cette idée qu'après les œuvres difficiles, il y a un moment de repos et de récompense et de joie qui sont là. Et bien entendu, sous la Nouvelle Alliance, les chrétiens ne vivent pas dans l'obligation de garder le sabbat comme les Israélites de l'Ancien Testament. Ils n'ont plus l'obligation d'avoir des années sabbatiques tous les 7 ans où ils ne font plus de travaux où ils attendent. D'ailleurs, il y a même l'avertissement dans Colossiens chapitre 2 et versets 16 à 17 contre ceux qui essayent d'imposer ça aux chrétiens, qui dit « Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. » Mais quand on regarde la richesse dans l'Ancien Testament de cette théologie, de cet enseignement au sujet du repos et du sabbat, on a presque l'impression qu'on est perdant sur cette question. Bon, Dieu ne nous impose pas le sabbat, mais on est presque un peu envieux de ces Israélites. Et je crois qu'une des choses que l'auteur aux Hébreux veut nous montrer, en plus de l'exhortation à la fidélité, c'est qu'il ne faut pas oublier que Dieu réserve quelque chose de meilleur pour nous, même que de meilleur que le repos de l'Ancien Testament. Comme toujours, l'auteur veut nous montrer que ce que nous avons en Christ est supérieur à ce que nous avions dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas perdants, mais il nous reste un repos, et c'est le repos qui était promis dans l'Ancien Testament, mais qui n'avait jamais été donné à cause de l'infidélité des Israélites. Et donc, on va juste regarder, si vous regardez dans le texte, comment l'auteur aux Hébreux va nous montrer, va démontrer cela. Premièrement, au verset 3, donc, ayant dit que nous attendons toujours ce repos qui était promis, voici ce qu'il dit, que le repos de l'Ancien Testament était incomplet et imparfait. Il ne suffisait pas, ce repos ne suffisait pas pour réaliser pleinement tout ce que Dieu représentait, tout ce qu'il avait prévu. D'ailleurs, et ça c'est la citation au verset 3, Dieu a dit que son repos ne serait pas donné à Israël, d'accord, à cause de leur incrédulité. Et c'est une citation du psaume 95, mais qui renvoie à l'épisode dans le livre de Nombre, où Israël s'est rebellé avant d'entrer dans la terre promise. Et l'auteur va donc expliquer un peu, quand on parle du repos de Dieu, il va lui attribuer un sens très spécifique, parce que ce n'est pas le repos que Dieu impose, ou le repos que Dieu ordonne, mais c'est le repos de Dieu. Et quand est-ce que Dieu lui-même s'est reposé? Bon, c'est après la création. Et donc, pour l'auteur, il est en train de dire non, c'est pas juste Dieu dit reposez-vous tous les 7 jours, reposez-vous tous les 7 ans, vous vous reposerez quand vous entrez dans la terre promise. Il y a le repos de Dieu, et ça, c'est Dieu qui se repose de ses œuvres dans la joie pour ce qu'il a créé. Et ce repos-là, Dieu désire le partager avec son peuple. Mais est-ce qu'il va pouvoir le faire? Et donc, ça, on va parler de ça. Donc, quand on parle du repos de Dieu, c'est ce qu'il désire partager. Donc, ça, c'est les deux choses. Donc, la troisième chose qu'il dit, c'est qu'il reste aujourd'hui la promesse, cette promesse du repos de Dieu est ouverte. Elle n'est toujours pas réalisée jusqu'à aujourd'hui. Car elle était promise après Josué et au temps de David. Vous savez, Josué, et ici c'est intéressant, en grec c'est Jésus, le terme qui est utilisé ici, parce que Jésus, son nom c'est Josué en grec. Mais Josué a fait entrer Israël dans la terre promise. Donc on serait tenté de dire, à ce moment-là, cette promesse du repos de Dieu est accomplie, parce qu'Israël est entré dans la terre promise. Mais après Josué, Dieu continue à promettre ce repos. Et on pourrait dire, bon, peut-être c'est parce qu'au temps de Josué, les gens étaient encore assez infidèles, la terre n'était pas pleinement donnée à Israël. Mais on voit aussi qu'au temps de David, que de nouveau cette promesse du repos est donnée. Et si vous vous souvenez, David, la période de David, c'est l'âge d'or d'Israël. C'est le moment où ils ont l'intégrité territoriale la plus complète. Ils sont protégés de leurs ennemis. C'est le moment où Israël est le plus fidèle, plus ou moins, hein, parce qu'ils ont toujours lutté avec l'idolâtrie, mais le plus fidèle qu'ils ont été. Et on pourrait dire, c'est à ce moment-là, sous David, qu'ils ont le repos de Dieu. Mais c'est justement au temps de David que cette promesse est donnée une fois de plus, « N'endurcissez pas vos cœurs ». C'est-à-dire, la promesse est toujours donnée. Et donc, la conclusion à cela, c'est que dans l'Ancien Testament, à n'importe quel moment qu'on regarde, le repos est toujours en attente. Dieu est toujours en train de prévoir un repos. Et donc, si ce n'est pas l'entrée dans la terre promise, si ce n'est pas le sabbat, si ce n'est pas autre chose, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est l'attente de la vie éternelle dans la résurrection avec Christ. Et dit, ça c'est le repos que nous attendons. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Ça c'est le verset 11. Donc vous voyez comment il veut montrer que nous avons et nous attendons un repos meilleur que tout ce qui avait été donné dans l'Ancien Testament, que Christ réserve cela. Et donc, si le centre, le cœur de cela, c'est ce repos, il y a la motivation, la double motivation. Au début, il dit, craignons donc de ne pas rater ce repos. Et à la fin, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. On commence avec la crainte, mais on termine avec l'empressement, avec ce désir de recevoir ce que Dieu a donné. La motivation fondamentale et principale pour nous, ce n'est pas la menace de Dieu, mais plutôt la promesse que Dieu réserve quelque chose de bon pour nous. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais parfois, j'ai de la peine à travailler pendant la semaine, à être motivé, à faire le nécessaire et tout. Mais les week-ends, ça m'aide beaucoup. Bon, moi, mon week-end, c'est lundi, parce que je dois prêcher souvent les dimanches ou préparer la classe. Mais de me dire, il y a un jour où je vais pouvoir me reposer de mes œuvres, il y a un jour où je peux passer plus de temps avec la famille, où je ne dois pas me soucier de toutes ces responsabilités avec le travail, ça m'aide à travailler les jours où je n'en ai pas toujours envie. Et les vacances, c'est encore plus comme ça, n'est-ce pas? De se dire, ah, j'ai vraiment envie de prendre une semaine ou deux semaines de vacances et pas devoir me soucier de tout le travail que je n'ai pas encore fait. Et donc, on va travailler plus dur, on va faire plus d'efforts pour mettre tout ce que toutes nos responsabilités de côté, complétées, pour entrer dans le repos. Et il semblerait, bon, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais que des études ont montré que quand les employeurs offrent plus de vacances, que les employés travaillent mieux dans certains cas. Ça peut les motiver à donner plus parce qu'ils attendent ce repos. Et je crois qu'en France, ils ont pris ça beaucoup trop loin. D'accord? Mais il y a cette idée qu'avec l'attente du repos, il y a aussi la motivation, l'empressement de travailler mieux. Et c'est exactement ce que l'auteur aux Hébreux dit au sujet de la vie de foi. Il leur dit, puisque nous attendons un repos, empressons-nous, c'est-à-dire soyons pleins de zèle, pleins d'enthousiasme pour l'obéissance et le service de Dieu. Si Dieu nous promet le repos de toutes nos œuvres, ce ne sera pas pour être dans un sommeil de la mort permanent, ni pour être assis sur un nuage à nous ennuyer pour l'éternité, mais plutôt pour pouvoir nous réjouir avec Dieu de toutes nos œuvres, de tout ce que nous aurons fait pour Dieu et avec lui. Et ça, c'est le vrai repos qu'il nous réserve. Il nous faut vivre, en tant que chrétiens, avec cette attente de quelque chose de meilleur de la part de Dieu. L'auteur ici, on ne sait pas qui c'est, mais il s'adressait à des chrétiens qui avaient dû perdre des biens matériels, à qui allaient passer ou qui étaient passés par des souffrances et des persécutions. Certains, sans doute, allaient devoir aller jusqu'à la mort dans la persécution pour Dieu. Et la question, c'est, est-ce que Dieu prévoit quelque chose de meilleur pour vous, ou est-ce que ces souffrances et ces peines, c'est la fin? Est-ce que c'est tout ce que Dieu a à vous offrir pour votre fidélité? Et ce que nous voyons, c'est qu'il y a une récompense pour ceux qui persévèrent à faire le bien et dans la fidélité de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, nous attendons un repos, même si nous vivons dans un confort relativement énorme comparé au reste de l'humanité aujourd'hui et à l'histoire de l'humanité. Mais parfois, il nous faut tout de même passer par la souffrance, par la tristesse ou par la solitude. Parfois, nous subissons des injustices et des insultes sans pouvoir nous défendre. Pourquoi est-ce qu'on doit tolérer toutes ces choses? Pourquoi est-ce qu'on doit persévérer avec Dieu malgré le fait qu'il permet que des souffrances arrivent, que des injustices arrivent? Bon, la première raison, c'est parce que Dieu ne nous demande rien qu'il n'a pas déjà fait pour nous en Jésus-Christ. Mais deuxièmement, c'est parce que nous attendons quelque chose de meilleur de la part de Dieu. Nous attendons un repos, nous nous attendons à partager la joie de Dieu. Et ça, c'est la fin de l'histoire. Pas les souffrances, pas les injustices, pas les épreuves, pas les tentations ou les difficultés. Mais c'est le repos joyeux de Dieu. On se réjouit en quelque sorte du week-end cosmique, d'accord, du week-end éternel, mais qui sera plein de joie et, je crois, d'œuvres aussi. De nouveau, je ne crois pas qu'on va s'ennuyer. Je crois qu'on fera des choses, mais ce sera avec une joie. Et donc, nous attendons un repos. Et cela doit être notre motivation. Bon, si vous le permettez, j'aimerais juste qu'on voit deux choses. Il est quelle heure? Oui, on a juste quelques minutes. Deux autres choses qui sont importantes dans ce passage. Parce qu'ici, on a en quelque sorte un sandwich exhortatif. D'accord? On a l'exhortation, l'encouragement. Et au milieu, il y a la promesse du repos. D'accord? Et de nouveau, ça c'est l'essentiel, c'est que Dieu offre aujourd'hui pour nous l'attente d'un repos, et c'est le repos de Dieu. Et c'est la chose la plus importante que nous pouvons avoir. Mais si vous regardez un peu la structure du texte, c'est vraiment intéressant de voir qu'au verset 1 et 2, on commence avec l'idée ici qui est craignons, d'accord ? Craignons donc, d'accord ? Et puis à la fin, c'est au verset 11, nous avons « Empressons-nous ». Donc. Et ça, c'est les deux idées. Nous craignons donc de ne pas rater ce qui est donné, mais aussi empressons-nous donc d'entrer dans le repos. Et il y a une symétrie ici qui vise toujours ce repos qui est donné. Bon, pourquoi est-ce qu'on doit craindre, selon l'auteur ? C'est justement l'idée que, au verset 1, nous lisons que personne parmi vous ne pense être venu trop tard ou n'arrive trop tard, qui est là. Au verset 2, nous voyons la parole qui avait été écoutée ne leur servit de rien parce qu'ils n'entendirent pas et ne le reçurent pas avec foi. Et donc, l'idée ici, c'est, donc, craignons donc de ne pas arriver trop tard, d'accord? C'est l'idée, on ne veut pas rater le train parce que le train pour aller dans la terre promise, pour aller au repos. Et puis ici, à la fin, donc empressons-nous donc, c'est au verset 11, d'accord ? C'est de ne pas tomber, d'accord ? Et ça, c'est les deux encouragements qui sont là. Craignons donc de ne pas arriver trop tard et empressons-nous donc de ne pas tomber. Bon, pourquoi ces choses sont-elles arrivées pour Israël dans l'Ancien Testament ? Bon, ils donnent trois raisons. La première chose, c'est qu'ils ont reçu la parole, mais ils n'ont pas reçu avec foi. D'accord? Ils ont reçu, ils ont compris, ils ont même, on pourrait dire, accepté la parole de Dieu donnée à travers Moïse. Et il va même l'appeler l'évangile qui était pour eux, mais ils ne l'ont pas fait avec foi. Ils n'ont pas fait avec une confiance en Dieu. Ils n'ont pas fait avec un désir de suivre Dieu. Et nous voyons ça dans le livre des Nombres, n'est-ce pas? Chaque fois qu'il y a une épreuve, chaque fois qu'il y a une difficulté, la réaction, ce n'est pas la confiance en Dieu, mais c'est plutôt des attaques contre Dieu, des attaques contre Moïse, contre Aaron et les autres, en disant « Dieu veut nous tuer, Dieu veut nous tuer, Dieu veut nous tuer ». Et systématiquement, malgré toutes les fois que Dieu les délivre, ils ne viennent jamais à une relation de confiance et de foi en Dieu. Donc, ils n'ont pas la foi. Deuxièmement, ils ont eu un endurcissement du cœur. Ça, c'est ce qui est dit dans le texte aussi. On l'a vu plusieurs fois au chapitre 3, mais au verset 7, de nouveau, ils disent « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et l'endurcissement, c'est l'opposé de la foi. D'accord ? La foi, on entend la parole, on l'accepte et on donne sa confiance à Dieu. L'endurcissement, c'est on entend la parole de Dieu et on se révolte contre celle-ci. Et plus on l'entend, plus on se ferme à Dieu. Et donc, il y a l'incrédulité, le refus de croire et de faire confiance à Dieu, mais deuxièmement, il y a l'endurcissement. Et puis la troisième chose que nous voyons au verset 11, c'est la désobéissance qui est là. Il parle du même exemple de désobéissance. Le manque de foi, l'endurcissement et finalement la désobéissance. Et à cause de cela, ceux qui avaient reçu les promesses de Dieu, ceux qui avaient reçu même le salut de Dieu dans l'Ancien Testament, ont perdu tout ce que Dieu avait à leur offrir. Ils sont arrivés trop tard, ils ne sont pas tombés. L'encouragement pour des chrétiens qui ont cru en Christ, c'est de ne pas devenir des chrétiens sans foi, ou des chrétiens endurcis, ou des chrétiens désobéissants. Parce que le risque pour eux, c'est d'arriver trop tard. C'est une fois de s'être engagé sur le chemin en suivant Christ, de tout laisser tomber. Et je trouve intéressant, d'accord, il va parler de craindre de ne pas arriver trop tard et de s'empresser de ne pas tomber. J'aimerais juste vous relire ces passages qui sont là. Au verset, chapitre 4, verset 1. « Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. » Et puis il donne l'exemple des Israélites. Au verset 3, il dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit. » La réponse à la crainte, à cette crainte qui est là, la mise en œuvre, c'est la foi. Si nous vivons avec la crainte de ne pas entrer dans le repos de Dieu, la réponse à cela, c'est la foi. Vous voyez ce qu'on veut dire? Et cette foi, cela permet de surmonter la crainte et de la vivre d'une manière appropriée. C'est cette confiance en Dieu. Mais au verset 11, il dit ici, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Et il va dire comment? Et c'est sans suivre le même exemple de désobéissance. Et donc cet empressement mène à l'obéissance. Bon, parfois, moi, je pense un peu la façon inverse, n'est-ce pas? La crainte mène à l'obéissance et l'empressement mène à la foi, n'est-ce pas? On a peur de Dieu, donc on fait ce qu'il veut, okay? Et on est plein d'enthousiasme, donc on lui fait confiance. Bon, ici, je crois qu'il les inverse, il fait un switch, et je crois que c'est exprès. Parce que notre crainte, fondamentalement, ce n'est pas que Dieu va nous rejeter. Nous n'avons pas peur que Dieu nous rejette. Jésus-Christ, c'est le signe que Dieu veut de nous. Mais notre crainte, c'est à cause de notre dureté de cœur, notre manque de foi ou notre désobéissance qu'on va lâcher Dieu, que nous allons l'abandonner. Et la réponse à ça, donc, c'est la foi. Vous voyez ce que je veux dire qui est là? Notre obéissance est motivée par l'empressement. Okay? Notre foi est motivée par la crainte que nous n'allons pas vivre selon, nous n'allons pas persévérer dans la parole que Dieu nous a donnée. Et donc, la crainte, je ne crois pas que c'est une crainte de Dieu, même si la crainte de Dieu est tout à fait appropriée, mais une crainte que notre propre faiblesse, notre propre manque de foi, va nous priver des promesses de Dieu. Ça, c'est le danger. Pas que Dieu ne veuille pas d'eux, ou qu'il va les rejeter, mais qu'eux-mêmes vont rejeter Dieu. Et puis, l'empressement. Bon, si on est plein d'enthousiasme, plein de joie pour Dieu, quel est le fruit? Bon, c'est l'obéissance à Dieu. Et de nouveau, on va mettre ici. Parfois, je crois que dans notre société, on a un peu de peine à imaginer qu'une vie motivée par l'empressement, par la joie, sera l'obéissance. Ce sera suivre des commandements ou suivre des règles. On pense plutôt que c'est la liberté. Je fais ce que je veux, quand je veux. Ça, c'est l'empressement, d'accord? On est encouragé pour ça. Mais je crois qu'une connaissance des promesses de Dieu, d'une connaissance de qui Dieu est, cela nous motive à obéir plus. C'est une obéissance motivée par l'amour et par la joie. D'accord? Et c'est une foi motivée par la crainte, parce que nous ne faisons pas nous-mêmes le poids. Nous dépendons de Dieu. Et donc, la question pour nous qui est aujourd'hui, est-ce que nous vivons des vies caractérisées par la foi et la confiance en Dieu et par la crainte de tomber? Je crois qu'il y a besoin d'avoir cette crainte dans nos vies en tant que chrétiens. Sans arrêt, on lit dans le Nouveau Testament deux choses. N'ayez pas peur et puis vivez dans la crainte. N'ayez pas peur parce que Dieu veut de nous, il veut nous sauver, il désire vivre en communion avec nous, il ne nous rejettera pas. Mais la crainte parce que nous connaissons les conséquences du péché. Nous connaissons la faiblesse humaine et nous savons que c'est possible de rejeter celui qui nous a aimés en Jésus-Christ. Donc, est-ce que nous vivons en nous disant, quelle est la trajectoire, la direction spirituelle dans ma vie? Où est-ce que je vais? Et puis, est-ce que nous vivons des vies caractérisées par l'obéissance à Dieu? Nous disons, même quand je ne comprends pas, ou même quand c'est difficile, ou même quand il y a des tentations, je veux suivre la volonté de Dieu et pas ma propre volonté. Avoir une vie transformée. Bon, si ces deux choses sont vraies, nous aurons le repos que Dieu a promis. Parce que lui a tout fait pour nous le donner. Mais nos vies doivent ressembler à celles de Christ. Des vies de foi et des vies d'obéissance. Et donc, on termine avec ça. Et c'est extraordinaire, on parlera la prochaine fois de la parole de Dieu. Mais nous ne craignons pas, parce que pour ceux qui n'ont pas eu la foi, bon, la parole était sans effet, n'est-ce pas? Il dit ça au verset 2. La bonne nouvelle qui nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien. Aucune utilité. Mais pour ceux qui écoutent, c'est au verset 12 et 13, la parole est efficace et vivante. Et nous, nous voulons vivre en suivant une parole de Dieu qui est efficace et qui nous transforme. Alors Dieu veut nous donner le repos qu'il n'a jamais donné, mais qui sera extraordinaire, le repos de Dieu partagé avec lui en Christ. Pour nous, l'appel, c'est d'être attentif et soumis à Dieu dans sa parole, mais dans la foi en lui.